Accès libre avec Luc Fortin.
Luc Fortin en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté et Christine Campagnan va venir faire son tour. Elle qui est webmestre, édimestre, recherchiste, lui qui est metteur en ondes. Jean-Sébastien, je suis chialeux aujourd'hui.
Bon, j'aime ça de même, moi.
Ah oui, hein?
Pourquoi? Pourquoi cette fois-là?
Je sais pas. Je me suis réveillé grognon. Et pourtant, on a des sujets intéressants, entre autres les prix Marius. La France a, pour une deuxième année de suite, en jeu des prix pour ce qu'ils appellent, eux, là-bas, l'audio description. Les films qui étaient en nomination au César. On va voir qui a gagné. Et surtout, comment ça se passe là-bas, la audio/vidéo description. Il y en a qui ont décidé de se lancer en affaires. Et ils veulent vendre des œufs de Cannes. Vous avez peut-être vu le documentaire hier du côté d'Ami Télé. On va aller faire un petit tour en Estrie. Et Christiane va nous raconter différentes choses. Tandis que Dominique Tremblay, lui, nous amène dans l'Ouest canadien. Salutations, Dominique Tremblay, comment allez-vous?
Bonjour Luc, ça va très bien et toi?
Ça va. Je disais que tu allais nous parler de l'Ouest canadien, pas nécessairement pour sa géographie, mais bien parce que le parasport était à l'honneur dans deux cadres, soit celui de Prince George en Colombie-Britannique et celui de Red Deer en Alberta.
Oui, c'est
ça. Tu veux commencer par où?
On va commencer par Prince George en Colombie-Britannique.
D'accord.
Puisque ça s'est terminé dimanche dernier. C'était les championnats du monde de ski, de para-ski nordique. On parle de ski nordique parce que ça comprenait le ski de fond et le biathlon.
Pourquoi tu dis dimanche dernier alors que j'ai écouté des épreuves, moi, mercredi et jeudi?
C'est terminé dimanche hier.
Comme hier. OK, parfait.
C'est ça, oui. C'est bon. Les dernières courses, c'était hier, là, ouais. Il y a moins de 24 heures.
Ouais. Donc?
Donc, il y avait un total de 20 pays. 140 athlètes. C'est intéressant pour le Canada d'organiser une compétition de cette envergure-là. On peut dire probablement que c'est la plus grosse compétition internationale, du moins de championnat du monde, depuis 2009, depuis que le Canada avait obtenu les championnats du monde de paranatation à Montréal. Il y avait, donc, comme je l'ai dit, 140 athlètes. Le Canada a quand même bien fait gagner un total de 10 médailles, dont 2 médailles d'or. Colin Cameron en ski assis et Brian McKeever.
Encore lui.
Brian encore lui. Ouais. Il a participé à une seule course cette année.
OK. Ça en vient vieux, Brian.
Il a 39 ans quand même.
OK, pas si vieux que ça.
Mais c'est pas la raison pourquoi il a pas fait plus de courses. C'est qu'au début de la semaine, soit lundi et mardi, il était à Monaco pour les prix Léoris. Il était en nomination pour les prix pour l'athlète sportif avec un handicap. Malheureusement, il n'a pas gagné.
Oui, c'est ça, mais je lisais dans certaines citations qu'on lui a attribuées, là, qu'il était quand même fier d'avoir été choisi et tout. Là. C'est de bonne guerre.
Oui, c'est quand même un énorme honneur d'être reconnu à ce niveau-là. Ouais. Des athlètes comme Tiger Woods a gagné un prix. Djokovic, le joueur de tennis, j'ai oublié son prénom, a gagné la coupe masculin.
Mais il faut dire aussi que, bon, pour ceux qui l'ignorent, Brian a un handicap visuel.
Oui, il
est quand même, j'ose dire, plus ou moins sévère en ce sens. Disons, nous, on les appelait les aveugles de luxe à l'époque. Il est très, très fort en ski de fond, ski paranordique, donc. Et normalement, le gars réussit à se signaler lorsqu'il prend part à une compétition internationale.
Juste pour dire, c'était sa 20e médaille d'or. Wow. Dans le cadre des championnats du monde. Il a 17 titres paralympiques. La course qu'il a faite, il a battu un athlète suédois qui est son plus proche rival. C'était sur une course de 20 km. Il a gagné par plus de 3 minutes.
Son fait d'armes, en fait, c'est pas vrai, mais c'est pas nécessairement son fait d'armes, mais ce qui le démarque un peu, c'est qu'il souhaitait faire à la fois les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d'hiver en 2010, alors qu'ils étaient à Vancouver. Il avait fait les deux équipes nationales, mais dans le relais, l'entraîneur de l'équipe de ski nordique, donc aux Jeux olympiques, a décidé de ne pas le faire participer, ce qui ne lui a pas permis d'accomplir ça. Mais en même temps, bon, faut faire confiance à l'entraîneur. Ça, c'est ça.
Puis c'est quand même le seul qui a fait les deux équipes nationales lors de Jeux olympiques et Jeux paralympiques lors des sports d'hiver. Ouais. En même temps, c'est sûr qu'il y a des athlètes qui ont déjà fait les Jeux olympiques d'hiver avant leur accident et après aux Jeux paralympiques en hiver. Et il y a des athlètes en été qui ont fait les deux sports de la même année olympique et paralympique en été. Même Brian McKeever était le premier en termes d'athlète des sports d'hiver.
Pistorius, avant de se lancer dans la boxe de conjointe, lui avait fait les deux, hein?
Pardon, qui?
Oscar Pistorius?
Oui, il avait fait les deux. Il avait fait le 400 mètres aux Jeux olympiques et avait fait le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres aux Jeux paralympiques à Londres trois semaines plus tard.
Ouais. Dominique, est-ce qu'on a des infos sur... moi, les épreuves que j'ai écoutées, on entendait quand même une certaine participation des amateurs. Il faut dire que des compétitions de ski ou de biathlon, c'est sur un tracé quand même large. Est-ce qu'on sait s'il y a eu une participation? Est-ce qu'on a donné aux écoles du coin des demi-journées de congé pour aller être sensibilisé par ces athlètes?
J'ai pas été capable de trouver cette information-là. Je sais que les comités organisateurs s'attendaient à peu près à avoir quelques milliers de spectateurs durant les 7 ou 8 jours de compétition. Il y avait quand même, les images qu'on a vues, il y avait quand même quelques spectateurs, mais ça reste quand même pas le ski de fond au Canada et autres, quand on parle peut-être d'Alex Harvey, qui est un athlète très connu au ski de fond, pas pour les personnes handicapées, à part lui, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui attirent les foules. On parle aussi de sport pour personnes handicapées, mais ça commence à s'améliorer. Il y a quand même une bonne diffusion sur Internet, soit sur le site de Radio-Canada ou sur le site de la CBC en anglais. Donc, ça progresse. C'est peut-être pas exactement où on voudrait que ça soit, mais il faut commencer une étape à la fois.
Non, parce que j'avoue avoir été un petit peu déçu. J'avais présumé que si Radio-Canada présentait, c'est qu'il y aurait eu, commentaire en français, comme l'application de CBC l'offre en anglais, mais non, on a juste le son ambiant. Alors, faut se retourner vers l'application de CBC Sport. Parle-moi du biathlon. Parce qu'il y a différents types de limitations, que ce soit visuel, que ce soit amputé. Comment ça fonctionne, surtout pour le tir?
OK. Tout d'abord, quand on parle de ski de fond de biathlon, on parle de 15 types de classifications différentes. C'est beaucoup. Trois pour les classifications visuelles, déficiences visuelles, ce qui nous intéresse, mais il y a une seule médaille d'or, qu'on soit en ski assis pour les personnes qui ont des blessures médulaires, par exemple, ou encore des athlètes debout, il y a seulement une médaille, et les athlètes qui ont une déficience visuelle, une seule médaille. Il y a un pourcentage qui est attribué dépendant du niveau d'handicap, et c'est comme ça que la médaille d'or est attribuée ou les médailles sont attribuées. En ce qui a trait au biathlon, il y a des personnes en déficience visuelle qui font un biathlon. Le biathlon, c'est un mélange de tir à la carabine et de ski de fond. Évidemment, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est un pistolet ou un fusil au laser. Donc, plus tu te rapproches de la cible, qui est une grosseur d'à peu près de 25 sous, la cible que tu dois viser, et elle se situe à 10 mètres de toi.
Okay.
Et le plus proche que tu es de la cible, tu vas entendre dans ton oreille, tu vas entendre un son qui va faire bip, 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 puis quand le son est plein, tu es dans la cible. Donc, tu tires et tu réussis. Et si tu manques, tu dois faire une pénalité de 150 mètres ou 200 mètres, dépendant de la distance que tu fais.
OK. Pour les amputés, ça ne doit pas être évident de tenir une carabine d'un seul bras?
Il y a quand même dans certaines classifications, il y a comme un appui où on peut ajuster la carabine, tenir la carabine en place, donc ce qui rend la chose un petit peu plus facile, mais aussi que les athlètes aussi développent des trucs, que ce soit pour n'importe quelle action de la vie, donc le tir à la carabine est la même chose.
L'art de rendre ça plate. Non, mais c'est pas une réponse, ça, comme n'importe quelle... C'est quoi ces trucs-là? C'est quoi ces trucs-là?
Oui, je sais, mais toi, t'es un déficient visuel, Luc.
Ben oui.
T'es capable de te débrouiller même si tu vois rien quand tu te promènes dans une salle que t'as déjà vue.
Mais mon truc, c'est le bip, 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 bip. Ça, tu l'as bien écrit. Mais parce que le support, la hauteur, qui l'ajuste? C'est-tu la personne qui l'ajuste?
Ça dépend du niveau d'handicap de la personne. Pour moi, je suis aussi en fauteuil roulant. Mm-hmm. Mon fauteuil roulant va être différent d'une autre personne en fauteuil roulant parce que nos handicaps ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Donc, c'est pas vraiment standard. Il y a sûrement des règles qu'ils doivent respecter pour s'assurer d'appuyer la cible, le fusil, pardon. Mais c'est un peu différent de chaque individu.
Bon, maintenant, en Alberta, à Red Deer, avaient lieu les Jeux du Canada. Est-ce que c'est comme les Jeux du Commonwealth où il y a des sports adaptés et des sports dits réguliers?
Oui, en fait, pour les Jeux d'hiver, il y a le basketball en fauteuil roulant qui était dans le premier bloc, qui s'est terminé samedi. Et dans le deuxième bloc, il y a le ski de fond et le ski alpin qui est des athlètes avec un handicap, surtout physique, dans ce cas-ci. Donc, c'est intéressant. Il y a quelques athlètes de l'équipe canadienne qui ont participé au championnat du monde à Kenmore qui vont se rendre à Red Deer en Alberta avant de retourner à la maison pour participer aux Jeux du Canada. Et c'est une bonne expérience parce que c'est genre un mini-Jeux olympiques pour les athlètes canadiens. La plupart des médaillés qu'on retrouve aux Olympiques ont passé par les Jeux du Canada, donc c'est une très belle expérience. Et le basketball en fait partie depuis 1991.
On peut présumer que là aussi, il y aura diffusion de certaines épreuves, étant donné que CBC est de plus en plus impliqué et que ce sont les Jeux du Canada?
En fait, c'est pas diffusé sur Radio-Canada ou CBC. C'est diffusé soit sur TSN ou RDS pour certaines compétitions, mais la plupart des compétitions sont disponibles sur le site des Jeux du Canada.
Okay.
Donc, si tu voulais écouter la finale des Jeux, la finale de basketball en fauteuil roulant entre l'Alberta et l'Ontario, tu peux le faire sur le site de compétition des Jeux du Canada. Là.
OK. Sinon, autre chose avant de te laisser retourner dans ta vie douillette?
Ben, il y a les compétitions de snowboard qui vont avoir lieu en Finlande le mois prochain. Il y a quelques athlètes canadiens qu'on devrait surveiller. Mais plus ça va aller, plus on va se diriger vers les compétitions d'été. L'hiver va finir par finir à un moment donné.
C'est ce qu'ils
disent. Et d'ailleurs, il y a certains athlètes qui sont à Dubaï pour des compétitions d'athlétisme pour la première Grand Prix de la saison.
Merci bien, M. Tremblay.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Jean-Sébastien, avec le décès de Mario Chenard, je ne veux pas m'imposer, là, est-ce que vous en avez fait tourner beaucoup la semaine passée? Est-ce que...
Pas par mes soins, non.
OK. Oh, c'est bien dit, ça. Pas par mes soins.
Ben, je ne suis pas le seul à manipuler la console, là, mais... Okay. Donc, ça sera nouveau pour mes oreilles.
Ben, moi, c'est un type que j'aimais beaucoup et malheureusement, bon, j'ai appris son décès après l'émission lundi dernier. C'est... lundi dernier, qu'on a rendu public son décès qui avait eu lieu 2 jours plus tôt, Mario Chenard qui avait 57 ans. Et je dirais que son fait d'armes, lui, c'est Boucler le siècle, deuxième album qui s'était mérité. Auteur-compositeur, le Félix de l'auteur-compositeur de l'année. Et c'est bien pour dire, hein, je veux dire, s'il y a un prix pour un gars qui écrit ses textes, c'est bien celui-là. Et pourtant, combien sommes-nous à apprécier ce qu'il fait? Enfin bref, aujourd'hui, lorsqu'il sera question de musique, ce sera du Chenard. Et j'ai décidé, tiens, pour la première, d'aller sur son premier album qui a paru au début des années 80, au milieu des années 90. Mmh.
l'heure où la lumière tombe et se répand dans la mer. À l'heure où le silence est bondé de rêves et de mystères. Ce sont encore tes yeux qui me parlent et tes mots qui me touchent. On reste là debout à regarder le soleil qui se couche. Entre la foudre et l'aventure, le cœur bat plus vite soudain. La foudre et l'aventure, on se laisse prendre la main. Un caillou lancé dans la mer multiplie ses ronds dans l'eau. Ton sourire me fait des vagues dans le corps et sur la peau. Tant d'étoiles, tant de silence, tant d'immobilité. Quand dans l'âme tout le remous du monde se met à tourner. Entre la foudre et l'aventure, tout ce sable et si peu de temps. Entre la foudre et l'aventure, y a comme un sablier géant. Y a des éclats de lune au fond de ton regard. Je sens mon cœur qui tangue, mais je retiens les amarres. J'ai le goût. Changer quelque chose de plus que la lumière. Il fait toujours froid à l'aurore au lendemain des nuits claires. Les mains sont froides, le cœur est chaud. Oh, mais à l'envers, entre la foudre et l'aventure, le doux de ce lèvre au matin. La foudre et l'aventure, est-ce le début ou la fin? Entre la foudre et l'aventure, tout ce sable et si peu de temps. Entre la foudre. Choisis les deux sur le champ.
Jean-Sébastien, j'appelle ton oreille.
Oui.
Une vraie batterie ou pas?
Oui, une vraie batterie, mais avec beaucoup de reverb et d'effets esthétiques de cette période-là.
Est-ce que tu joues encore la batterie?
Dans ma tête et sur mon corps, oui, mais non, ça fait déjà quelques années que j'ai rangé mes baguettes et mes tambours.
Salut Christiane Campagna.
Salut Luc Fortin.
Est-ce que tu joues de quelque chose, toi?
J'ai joué du sax alto en secondaire 1, 2, 3.
Ah oui, OK. Puis est-ce que tu joues encore dans ta tête et... Non?
Non, okay. Mais quand j'entends « Wake me up before you go-go », je chante ma partition.
OK. Hii.
Là, ben c'était dans les années 80.
Oui, oui, tout à fait. Ben c'est ton moment de revue de presse.
Oui.
Tu revises quoi?
Écoute, on commence par une mauvaise nouvelle. Oh. C'est-à-dire qu'il y a un sondage qui a été fait en Grande-Bretagne avec des résultats assez décevants. Un employeur sur quatre hésiterait à embaucher une personne en situation de handicap. Hésiterait ou même n'embaucherait pas.
Mais j'aime l'honnêteté, par exemple. J'aime parce que c'est dit.
Et ensuite, on a interrogé des représentants de divers organismes pour commenter les résultats, dont un James Taylor, qui avait sûrement « He's got a friend ».
Oui, bien, j'ai posé, mais...
qui a affirmé que pourtant, premièrement, c'est parce que peut-être il y a une méconnaissance de ce que ça prend comme accommodement, parce que, comme il dit, c'est pas si compliqué qu'on puisse le penser, peut-être. Et il y a aussi parce que je pense qu'il y avait des gestionnaires du domaine au niveau public qui avaient été interrogés dans ce sondage-là. Donc, l'avocate Maria Chadwick, elle travaille justement pour une firme d'avocats qui défend des causes de discrimination. Elle dit qu'il y a une lacune dans la formation carrément des gestionnaires, notamment dans la fonction publique, parce qu'ils ignorent carrément leurs obligations légales d'équité et que ça devrait faire partie de leur formation à leur embauche.
Donc, c'est 25 % hésiteraient.
C'est 25. Le pourcentage pour hésiter était plus grand que ça. Le 25%, c'est. N'embaucherait pas.
Ou
pense que la personne ne serait pas capable de faire le genre d'emploi qu'ils ont.
Je trouvais que c'était faible, 25%. Mais là, si on ajoute l'hésitation, puis on va peut-être au-dessus de 30-35%.
C'est les personnes disent soit, ben là, ben, moi, je pense pas qu'ils seraient capables, ou des choses comme ça.
Puis, quand tu as ta binerie, c'est peut-être un petit peu plus précaire, donc t'hésites un peu plus que quand t'es à la tête comme directeur des ressources humaines d'une multinationale où finalement un employé parmi 2826, tu y penses moins. Mais quand c'est 1 sur 7 et que c'est ton restaurant, puis la personne est en fauteuil, puis qu'elle doit servir, là je mets ça gros là,
oui.
mais on peut comprendre.
Oui, il y a sûrement aussi des personnes qui pensent que les accommodements seraient compliqués, seraient coûteux.
Ouais, ouais. Et à quand le premier serveur en fauteuil roulant? Moi, je veux voir ça. Sinon,
il y a le site handicap.fr qui s'est entretenu avec Sylvie Guillaume, qui est vice-présidente du Parlement européen, afin de parler d'inclusion, autant du côté de la députation que de l'accès au vote. Alors, parmi les questions qu'ils ont posées, mais tout d'abord, ils lui ont demandé, sur les 751 députés européens qui siègent au Parlement, combien sont manifestement en situation de handicap? La réponse, c'est 6.
Oh.
6 collègues présentant des handicaps qui nécessitent une aide humaine importante. Certains sont en fauteuil roulant, d'autres sourds, comme les députés hongrois Adam Kossa et la Belge Helga Stevens. Et il y a aussi des personnes aveugles. Mais comme dans toute collectivité, elle suppose qu'il y a peut-être des handicaps invisibles que les personnes ont préféré ne pas révéler.
Ouais.
On s'informait s'ils avaient un budget qui leur est alloué. Oui, ils ont environ 10 000 euros chacun, notamment pour financer des interprètes en langue des signes qui doivent parfois même voyager avec eux et pour faire différentes adaptations de bureaux, des choses comme ça. Et ils en ont profité aussi pour parler d'accessibilité du vote pour les élections européennes. Mm-hmm. Notamment, Sophie Cluzel, en France, a annoncé le droit de vote pour tous sans restriction récemment. Mais comment le Parlement... on parle notamment des personnes handicapées placées sous tutelle.
Okay.
Mais on demande donc comment le Parlement compte-t-il se mobiliser pour que tout le monde puisse accéder aux urnes, aux élections européennes. Et c'est compliqué justement parce que le Parlement européen n'est pas en situation de contraindre les États membres à réaliser l'accessibilité des bureaux de vote. Il peut le suggérer fortement, il peut faire des campagnes de sensibilisation, mais il n'a pas de pouvoir sur les États.
C'est comme leur problème d'arrondissement, là.
Oui, un peu.
Ouais. OK.
Et toute petite nouvelle, mais si tu vas voir du soccer ou du football, au standard de Liège, de la description.
Ah oui?
Oui.
Okay.
Depuis 10 ans, le speaker officiel Jacques Massard, accompagné de Jean-Marc Stril et Jean-Michael Modolo, commente les matchs en audio-description.
Alors, ça, c'est intéressant. Mais en même temps, quelqu'un pourrait dire, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui, normalement, est là pour peindre les images à la radio? Parce que, oui, il y a la description du jeu, mais t'es supposé quand même, à la radio, de mettre de la couleur, de mettre...
Eux disent qu'ils en mettent davantage de la couleur que dans les descriptions standards. Et aussi, ils ont comme un système où le terrain est divisé en zones. L'idée est de permettre pas seulement aux gens qui sont très, très mordus et donc qui connaissent toutes les règles sur le bout de leurs doigts de comprendre la description, mais à l'auditeur lambda, comme ils disent, de pouvoir comprendre et s'enthousiasmer aussi.
Est-ce que c'est uniquement pour les partisans qui sont au stade ou on pourrait peut-être même avoir accès à cette diffusion-là?
L'article ne mentionnait que le stade, mais il mentionnait justement que ils ont deux très jeunes supporters dans les tribunes dont les parents venaient déjà au stade. Et grâce à l'audio-description, ils viennent maintenant en famille.
Ben, vous imaginez quand même faire ce service-là pour deux personnes, ou même s'il y en avait 7 ou 8, et c'est ça que j'aime, c'est peu importe combien de personnes, l'idée, c'est d'offrir un choix équitable, une opportunité la plus proche possible de celui ou celle qui voit l'action.
Oui, tout à fait.
Je vous mets tout de suite sur le cas, là. Si jamais il y a un lien, vous mettez ça sur la page web. Et vous envoyez ça dans le courriel de Luc Fortin.
D'accord.
Yeah. D'ailleurs, la saison de l'Impact qui commence samedi.
Bon, on pourrait faire des pressions.
Hein? 22h. Oh, écoutez, là, je fais des pressions pour l'application puis le site web.
Est-ce qu'on reçoit M. Saputo en entrevue la semaine prochaine?
M. Saputo a pris du recul. Il a changé, là. Oh. Mais,
on voit ici qu'on a des connexions.
Non, ils ont fait une conférence de presse et tout, là. C'est Kevin Gilmore, maintenant, qui est le président de l'équipe. Mais ça reste... Beaucoup de gens se disent, ouais, mais comme c'est pas lui qui met l'argent, est-ce qu'il va avoir les coups des franches ou c'est Saputo qui va lui dire quoi faire? On s'arrête de l'autre côté, Christiane, avec la semaine de relâche qui s'en vient. On va proposer ou reproposer, parce qu'on a déjà fait allusion à ça, des petites sorties accessibles que nous propose la CEPAC. Jean-Sébastien, il nous reste quoi? 30 secondes?
Oui.
Bon, on écoute le thème, puis on s'en va en promo, puis on revient de l'autre côté.
Vous écoutez Accès libre.
Madame Campagna,
oui.
C'est la semaine de relâche.
Oui.
Vous voulez qu'on parle de vidéo description ou de neige et d'accessibilité?
Et moi, je pense qu'on va parler de vidéo description ou audio description pour laisser Madame Gange aller à sa rencontre à 18h45.
Oui, parce que bon, elle est en France et effectivement, bon, on avait prévu, disons, retarder un petit peu, mais Christiane me parle, Madame Gange, de vos obligations. Vous qui êtes... À la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, on veut parler des prix Marius. Comment allez-vous d'abord?
Bonjour, ça va bien, merci.
Bon début de soirée.
Merci, oui, pour nous, il est 18h30. Mm-hmm.
Parlez-moi des prix Marius, deuxième édition qui ont été octroyés tout récemment.
Oui, la semaine dernière, mardi, nous avons remis le Marius de l'audio-description au film Pupille, et donc à sa descriptrice d'une chère ville. Et donc c'était effectivement la deuxième édition, et on l'a remis au CNC, c'est le Centre National du Cinéma, et ça s'est bien passé, ma foi.
je disais en début d'émission, comme introduction, que les films qui étaient, disons, en... nomination sont ceux qui sont en nomination au César. Donc, comment on a choisi d'axer le concours de cette façon?
En fait, au sein de la CFPSA, donc vous avez donné la signification,
ouais, la Confédération,
du sigle, il y a un groupe de travail qui s'appelle le panel audio-description. Il a été fondée par deux hommes, Sylvain Nivard et Guy Rochereau, qui est canadien d'origine, donc c'est amusant. Depuis le début du panel, nous avons un lien avec vous. Et donc, Guy et Sylvain ont créé ce groupe de travail qui est constitué d'aveugles et de malvoyants. Enfin, Guy est une aide précieuse pour nous. Il est voyant, mais il nous accompagne dans toute cette démarche. Et donc, on a régulièrement des liens avec les chaînes de télévision, on commente les programmes qui sont proposés en audio description aux chaînes de télé. Mmh. Et puis, c'est vrai que nos travaux avancent doucement et on n'est pas toujours assez connu ou reconnu comme on le souhaiterait, parce que en France, on a des obligations au niveau des chaînes de télévision. Elles ont un quota de films à produire et à diffuser des programmes audio décrits. Alors, la quantité a augmenté, mais la qualité n'a pas toujours suivi.
Oui. Est-ce que le quota est le nombre de programmes ou d'heures de disponibles? Comment c'est structuré?
Il est en fonction de l'audimat des chaînes.
Oh.
Selon l'audience qu'elles ont, elles ont une obligation plus importante. Et globalement, les chaînes de télévision respectent ce quota, mmh. Les programmes audio décrits ont augmenté, enfin leur nombre, et en revanche, des sociétés se sont engouffrées dans cette brèche et se sont mises à faire de l'audio description alors qu'elles n'étaient pas forcément formées pour ça.
Ouais.
Alors, pour attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'un programme est audio décrit que c'est bien fait, on a pensé à créer ce prix Marius, pour attirer l'attention sur nos souhaits, nos attentes, nous, en tant qu'aveugles et malvoyants, pour promouvoir l'audio description telle que nous l'entendons.
Arrivez-vous à en faire un événement qui a un certain intérêt, ou c'est plutôt l'apparition d'un communiqué qui dévoile le résultat de ce comité de 100 personnes?
Alors, nous avons eu un peu plus d'audience que l'année dernière. Déjà, l'année dernière, c'était pas mal d'être reçu au Centre national du cinéma. Il se trouve que la création du panel, elle est depuis 2010. Et donc, Sylvain et Guy ont frappé à beaucoup de portes depuis cette époque et ont collecté un joli carnet d'adresses, qui nous a aidés à être reçus officiellement au CNC. Et donc, c'est vrai qu'on souhaitait surtout être attaché au sujet culture et pas au sujet handicap,
ouais,
pour avoir plus de visibilité. C'est pour ça qu'on s'est attaché au César, pour vraiment être dans une démarche d'accès à la culture, vraiment en tant que spectateur, quoi. Et cette année, effectivement, on a eu encore plus d'audience. La salle était pleine, enfin, et il y a eu tout un tas de retombées, dont vous.
Oui, 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 oui. En fait, nous, c'est certain que ça nous intéresse parce que dès septembre, il y aura sur les chaînes entre 19 et 23 heures obligation d'offrir,
oui,
une programmation avec audio description. Donc, on se dit, et moi, c'est une idée que j'ai depuis un certain temps. J'aimerais faire connaître, j'aimerais faire entendre, et j'aimerais aussi, je trouve intéressant l'idée de créer une uniformisation, du moins une bonification, mais par la carotte et non le bâton, en
voilà,
offrant et valorisant ce qui fonctionne bien.
Oui. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est plus sympathique, c'est,
ouais,
plus facile à médiatiser, de coller à l'actualité culturelle. Nous avions donc 100 jurés qui étaient contents d'avoir à écouter les films en compétition pour le César. C'était beaucoup plus sympathique et beaucoup plus motivant, certainement, pour ces différents jurés.
Avez-vous pensé peut-être dans, disons, le film de l'année, simplement inclure le critère d'audiodescription plutôt que d'en faire une catégorie à part entière?
Nous avons envisager, mais ça c'est notre souhait à nous, que ça devienne un César technique, qu'il y ait un César de l'audiodescription. Alors, dans l'immédiat, c'est un joli rêve, parce que nous n'avons pas de contact à proprement parler avec l'Académie des Césars. Nous savons que cette Académie est très sollicitée pour créer de nouveaux prix, notamment sur les effets spéciaux. Enfin, il y a toujours différents aspects à récompenser pour eux aussi. Donc, pour le moment, nous restons avec le Marius. Et puis, peut-être que, je ne sais pas, dans 5-10 ans, ça sera différent.
Est-ce qu'il y aurait, ou est-ce qu'il y a des pourparlers pour qu'un prix similaire, disons, des œuvres télévisuelles, comme ici, ce serait les Gémeaux. Et il y a beaucoup plus d'émissions de télé qui sont en audiodescription que de films québécois. Est-ce que vous envisagez faire des représentations pour que, disons, il y ait le Marius télé?
Alors, le Marius télé, entre nous, nous l'appelons Fanny.
Fanny, OK.
Parce que vous savez, c'est par rapport à la trilogie de Pagnol, César, et puis, il y a Marius et il y a Fanny. Donc, non, là, c'est plus compliqué. On a évoqué le sujet, mais pour sélectionner quel type de programme entre, je ne sais pas moi, un documentaire animalier, historique ou, je ne sais pas, une série, un téléfilm, pour sélectionner les nommés dont il faudrait évaluer l'audiodescription, c'est beaucoup plus complexe. Là, pour le film, c'est, je dirais, facile. On s'appuie sur l'Académie des Césars et au moins, on n'a pas, nous, de sélection à faire.
Est-ce que vous remarquez, vous parliez tantôt qu'il y avait des productions qui étaient mieux faites que d'autres. Est-ce que c'est, on peut faire la différence entre les maisons de production ou c'est peut-être plutôt des différences dans la narration ou...
On remarque quand même que certaines maisons sont meilleures que d'autres.
Ouais, ici aussi.
Même au sein de chaque société, il y a des audiodescripteurs meilleurs que d'autres. Certains s'accompagnent d'un relecteur aveugle, mais pas tous. C'est vrai qu'en général, quand la description est relue par un collaborateur déficient visuel, ça garantit une certaine qualité.
Ouais.
Mais ça n'est pas systématique.
Est-ce qu'en France, on cherche plutôt la neutralité ou, comme moi, j'aime bien avoir, j'avoue, là, une certaine émotion dans la voix du narrateur ou de la narratrice parce que l'action provoque une émotion dans la tête de celui ou celle qui la voit. Donc, j'ai envie que lorsque la personne me raconte l'action, qu'elle-même ait cette émotion-là. Mais c'est pas nécessairement privilégié comme approche.
Nous, on préconise plutôt une certaine neutralité.
D'accord.
Pour que ne pas confondre la voix qui énonce la description avec un personnage du film.
Ouais.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut une voix monotone, sans il vaut mieux qu'elle ait un peu de neutralité, oui, mais que ce soit pas désincarné, il faut pas que ça ressemble à une synthèse vocale. Mais il faut pas qu'on ait l'impression que ce soit quand même un spectateur qui est à côté du canapé et qui rit. Enfin bon, c'est pas bien quand la personne s'esclave.
C'est sûr. Non, c'est ça.
Que ce soit évidemment dans le ton du film, on décrit pas de la même façon un drame qu'une comédie, mais il faut que ce soit relativement fluide et que ça n'influence pas notre libre arbitre. Quoi.
Bon. En terminant, parce que vous avez une réunion, Sylvie Ganche, hier, c'était
on
les...
fait le bilan.
Pardon?
On fait le bilan, justement.
Ah, justement.
Tout à l'heure, on se réunit par téléphone parce que nous sommes de toute la France. Et c'est ce qui est amusant, c'est que nous sommes... moi, je suis à Rennes, en Bretagne, et il y a aussi bien une personne de Dijon, de Chambéry, de Toulouse, enfin, vous voyez, et puis évidemment des Parisiens. Et donc, on se réunit ce soir pour faire le bilan, justement, de cette deuxième édition, même si elle n'est pas tout à fait terminée, mais...
Alors, hier, bon, oui. C'était les Oscars aux États-Unis. Oui. Il y a toujours tapis rouge. Comment étaient les robes au prix Marius?
Alors, on s'est décrit. Alors, toutes les personnes ne l'ont pas fait.
C'est bien drôle.
Je suis intervenue en quatrième et je suis la première à m'être décrite. Mais parce que je trouvais ça un peu rigolo.
Ben oui.
J'ai dit que j'étais debout derrière le pupitre transparent, que de la main gauche je tenais le micro et que dans la main droite j'avais gardé ma canne blanche. J'ai dit que j'ai le teint pâle, les cheveux
satin
clair et que j'avais une robe rouge. Enfin voilà, il y a les camarades qui sont intervenus pour donner d'autres informations sur les critères d'une bonne audiodescription, se sont décrits.
Ben oui, on a imité votre initiative. Rigolo. Belle idée. Ben, Sylvie Ganche, merci beaucoup d'avoir été là.
Je vous en prie, avec grand plaisir.
Madame Ganche, qui est organisatrice de cette initiative donc de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes. On parlait de la deuxième édition des prix Marius.
Depuis le temps que je survole ce monde et qu'il me fait envie, depuis le temps que l'attente me tourmente de goûter à la vie. Oh, mais qui donc a dit que les anges ne manquaient de rien? Quand je les ai vus, amoureux tendres, qui préparaient un nid, je me suis aussitôt blotti dans son ventre, aux portes de la vie. Puis jamais vu lumière aussi grande, quand leurs yeux m'ont tout. Je n'ai su que pleurer. Oh non, j'ai pas dit mon premier mot, mais qu'on me laisse le temps de venir au monde. Oh non, j'ai pas dit mon premier mot, mais je brûle de crier que le monde est beau. Depuis le temps que je voulais toucher terre, la prendre dans mes mains. Depuis que j'entends des musiques en prière, danser dessus enfin. M'a brevé les yeux au reflet des rivières, ou dans l'œil d'un ami. Respirer le vent qui les fougères et mordre dans un fruit. Oh non, j'ai pas dit mon premier mot, mais qu'on me laisse le temps de venir au monde. Oh non, j'ai pas dit mon premier mot, mais je brûle de crier que le monde est beau. Et ce vertige devant tant de choses à faire et tant de choses à dire. Oh non, j'ai pas dit mon premier mot, mais je sais ma chance de venir au monde. Oh non, j'ai pas dit mon premier mot, mais je jure de chanter que le monde est beau.
Madame Campagnat.
Monsieur Fortin.
Avant d'aller en Estrie pour parler d'eux, O-E-U-F-S, allons en Estrie ou ailleurs pour profiter de la nature.
Oui, dernièrement, le site de la CEPAC proposait 7 sorties hivernales simples et sans tracas pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que tu veux...
Comme, sans tracas.
Ouais, sans tracas. Okay. On précise quand même d'aller, parce que ça peut varier, mm-hmm. La mobilité, d'aller consulter la description
l'évaluation
des attractions.
L'évaluation qui roule.
Oui, voilà. Ouais, ouais. Tout à fait. Alors, on vous invite au Parc national d'Oka, où il est possible d'emprunter gratuitement un fauteuil roulant tout-terrain hippocampe ou le skivel. Il y a un équipement qui s'adapte au fauteuil roulant et permet de circuler sur les sentiers enneigés. On vous propose d'aller à l'Aquarium de Québec, qui est un endroit accessible. Okay. On propose plusieurs destinations où les randonnées pédestres hivernales sont accessibles donc aux personnes à mobilité réduite, au Parc du Bic, aux îles de Boucherville, au Mont Hufford, au Mont-Saint-Bruno, au Mont-Tremblant et à Oka. Et donc, on est doté là-bas de skivelles. On nous propose...
Mais ça, j'aime bien, par exemple, parce que c'est vrai que c'est plaisant de marcher dans les bois l'hiver, mais souvent la neige est folle. Donc, des sentiers pédestres balisés, ça me déplaît pas du tout.
Oui, c'est vraiment une option très intéressante. Oui. Alors, on a aussi proposé l'auberge du Chêneau parce que tout est sur le même site. Donc, okay. C'est une auberge qui propose un bistrot-bar qui s'appelle le Quatre Temps, qui est accessible par ascenseur et qui fait honneur au terroir québécois.
Bon.
On propose d'aller visiter...
C'est où, ça, du Chêneau?
Ça donne sur le lac Saint-Joseph. C'est tout ce que je peux te dire.
Jean-Sébastien, trouvez-nous ça, là, du Chêneau.
I'm on it.
Merci beaucoup.
On propose d'aller emprunter le téléphérique au parc de la chute Montmorency, qui devient un pain de sucre lorsque la chute est gelée.
C'est joli.
Oui. On propose d'aller au gîte du Mont-Albert, qui propose une magnifique auberge classée 4 étoiles avec tout le confort. Et on propose aussi une pause au bar du gîte. Encore une fois, l'établissement est complètement accessible. Et enfin, on propose d'aller faire un tour au parc national du Mont-Mégantic.
OK.
Parce que pour aller admirer le ciel étoilé.
Mais même si, quand c'est rendu qu'il y a des auberges accessibles au Mont-Albert, là, c'est parce qu'on, tranquillement, là, on s'organise, parce que c'est pas à porte, là. En tout cas, pour nous, ici à Montréal, c'est pas à porte. Jean-Sébastien, est-ce qu'on a trouvé où est situé du Chêneau?
On a trouvé, oui. C'est à 30 minutes environ de Québec. Okay. C'est pas loin de Saint-Raymond, un petit peu au nord de Pont-Rouge, donc sur la carte...
Dans Pont-Neuf. Je pense.
Un petit peu plus au nord-est de Portneuf, au nord de Pont-Rouge et au nord-ouest de Québec.
Ben, merci beaucoup, on n'ira pas pareil.
Il y a beaucoup de neige par là ces temps-ci. Là, oui, on voit des photos, les bas de neige dépassent presque les maisons.
Daniel Bonin, bonjour.
Bonjour, monsieur Luc.
Comment allez-vous?
Très bien, vous-même.
Ah, ça va bien, merci, j'apprécie. Bon, là, je veux savoir, vos cannes blanches, là, est-ce qu'elles ont le bas des pattes rouges?
Et non.
OK. Ils ne sont pas comme ma canne blanche.
Non, absolument pas. Et non, pas comme la mienne non plus.
Ouais. CA2NE, vous vous êtes lancé... En fait, vous avez agrandi votre business, vous qui êtes propriétaire avec votre conjointe, de à la canne blanche. Donc, vous voulez prendre le commerce des œufs de canne. Vous êtes établi à Stokely-Sud. Hier, je regardais Rien n'est impossible, où vous passiez, vous et d'autres entrepreneurs avec un handicap visuel, dans ce documentaire présenté sur MTL. Il est d'ailleurs encore disponible sur l'application ou cette semaine. Daniel, ça a été toute une aventure. C'est quoi? C'est plus de 4 ou 5 ans de préparation?
Absolument. C'est environ, ça fait, je vous dirais, là, 2 ans à temps plein qu'on prépare la construction de la canardière, la mise en marché et aussi la production de nos petites cannes.
Vous en aviez déjà avant, c'est ce que je comprends.
Absolument, ça a été une passion. On avait gardé ça pour nous, pour quelques douzaines par semaine qu'on faisait ici dans notre entourage. Mais on est tombé en amour avec ces petites cannes-là. Puis pour leur rendre honneur, ben nous, c'est ce qu'ils font de mieux. C'est de produire des œufs. Donc, pour leur rendre hommage, puis aussi pour nous profiter de notre terre agricole ici. Puis, vous savez, ça fait une belle petite retraite.
Là, j'entendais dans le documentaire que vous prévoyez, disons, lancer la production officiellement en mars. Est-ce que les délais tiennent encore?
Écoutez, oui. Notre canardière va commencer à se remplir en mars. On sera sur le marché à l'été 2019, okay. Vraiment là, plus facile à retrouver le temps de faire produire parce qu'on va arriver aussi avec un nouveau produit. Donc, aussi un nouvel emballage qui va sortir des œufs traditionnels.
Mis à part le dernier 90 secondes du documentaire où là on disait « bon, rien n'est impossible, il n'y a rien qui va m'arrêter et tout », ce que j'ai aimé du ton de ce documentaire-là, c'est que il était quand même dit que sans le soutien des autres, c'est pas possible. Que ce soit quelqu'un qui se lance comme conseiller financier, lui, il disait « moi, tout ce qui est clérical, tout ce qui est job de bureau, je le laisse faire par d'autres ». Vous avez mentionné avoir eu beaucoup d'aide bénévole, autant pour la construction que le plan d'affaires. C'est vrai que lorsqu'on a une limitation, ça prend non seulement une confiance des autres, mais aussi un coup de pouce.
Ben absolument. Je crois que déjà se lancer en affaires prend un bon entourage, et d'autant plus lorsqu'on a une limitation. Mmh. Comme vous avez dit, M. Luc, c'est de faire confiance. Hein? Confiance aux gens. On s'est bien entouré. Puis les gens sont tellement bien réceptifs à toute cette joie-là qu'on a de démarrer une entreprise. Donc, on laisse rentrer des gens. On laisse la place que les gens veulent prendre et surtout avec toute leur connaissance.
Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, Daniel, est-ce qu'on est quand même encore réceptif pour accepter un non? Que ce soit de la part des créanciers, des banques, de ceux qui évaluent le plan d'affaires, puis qui nous disent « moi, je pense que tu devrais vraiment y penser à deux fois ». Comment on fait pour être réceptif alors qu'on y tient tant que ça?
Bien, écoutez, Luc, c'est important. C'est important d'avoir des noms. C'est important de se remettre en question dans notre démarche. Je crois que c'est d'être réceptif au non, mais de pas se décourager. Mm-hmm. Mais c'est important parce que ça nous remet en question. Si je pars du début, il y a bien des choses qui ont dû changer. Il y a bien des choses qu'on a dû adapter. Hein? Puis ça, c'est dû à des noms, dû à des refus ou dû en tout cas à des personnes qui étaient réticentes. Puis ça, ben, tant mieux qu'il y en ait. Ouais. Mais c'est de garder notre motivation puis d'être capable de s'adapter là, à toutes ces réticences-là, parce qu'un nom quelque part ne veut pas dire un nom partout. Hein.
On parle de cette nouvelle entreprise qui débute officiellement à la canne blanche. On parle de canne avec Daniel Bonin. Lui et Marie Sauvé, sa conjointe, ont décidé d'augmenter de 20 fois la production artisanale qu'ils avaient. Comment on a déterminé la grandeur ou la grosseur qu'aurait l'entreprise?
Bien, écoutez, M. Luc, de un, c'est par plan d'affaires. On y était économiquement pour que l'on puisse se consacrer à temps plein et que cela puisse nous permettre d'en vivre. On a dû calculer, faire les calculs, voir toutes les études qui étaient faites, combien d'œufs qu'on devait vendre. Mm-hmm. Et de là, on est parti avec ça. Et il y a aussi le fait que pour se faire prendre au sérieux. Je devais présenter quelque chose parce que les premières minutes, là, quand on parle puis qu'on est deux personnes aveugles puis qu'on parle avec un financier ou quoi que ce soit, les premières minutes, ils ne nous écoutent pas. C'est tout de suite, mon Dieu Seigneur, ils sont aveugles. Donc, pour se faire prendre au sérieux, pour ne pas être farfelu, ben, il fallait arriver avec un produit et arriver aussi avec un endroit où ça va avoir de l'allure. T'sais, ici, présentement, notre canardière a 120 par 30 avec des packs d'exercice de 120 par 15 chaque côté. Et ça, c'est un établissement qu'ils ont rarement vu ici en Estrie. Okay. Donc, les gens ont vu que nous, on a tout mis, hein, comme on dit, on a tout mis nos œufs dans le même panier.
Oui, tout à fait.
Mais là, en démontrant ce bâtiment-là, qui est un bâtiment agricole, qui est vraiment fait selon les normes et les recommandations du MAPAC, là, on se fait prendre au sérieux. Les financiers doivent s'asseoir et doivent nous prendre au sérieux. Et notre plan d'affaires, ben, on a dû travailler très fort, d'un, parce que les statistiques n'existent pas dans le domaine des œufs de Cannes. Donc, on a dû aller à l'extérieur, on a dû aller chercher ce qui se faisait à l'extérieur pour donner des statistiques qui sont logiques.
Et en terminant, Daniel, pourquoi la canne versus la poule versus l'œuf?
Écoutez, c'est moi, je dis toujours, hein, la canne, la coureur indien est une canne qui tient debout. C'est un petit ce qu'on appelle le canard pingouin. Et on a toujours dit, à l'être humain, on s'est mis debout pour marcher parce que supposément plus intelligent. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai été chercher la volaille, qui c'est la seule qui s'est levée debout pour marcher. Donc, sûrement plus intelligent.
Okay.
Mais plus que ça, c'est des petits animaux qui ne volent pas, des animaux qui sont zéro agressifs. Donc, pour nous, deux personnes aveugles, des animaux qui restent au sol, puis on les entend très bien marcher parce qu'ils courent beaucoup.
Ben, en tout cas, donc, c'est... je suis obligé de vous arrêter, mais vraiment, oui. Bonne chance. Bonne chance.
Un grand merci de nous donner ce moment-là.
Merci également à Jean-Sébastien Laliberté et à Christiane Campagnel. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi.